Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est cette émission où on vous résume l'actu jeu vidéo des deux dernières semaines. Et si vous êtes un habitué de l'émission, vous vous dites mais où est Patrick? Qu'est-ce qui se passe? Alors Patrick m'a laissé les clés de la baraque et c'est moi JK hein, qui est l'honneur, l'immense honneur et une pression incroyable de présenter ce Rendez-vous Jeu exceptionnellement pendant les vacances de Patrick. Patrick est parti avec l'argent du Patreon, je pense aux Caraïbes. Donc moi je suis resté à Paris pour assurer le boulot, mais heureusement je sais que tout va très bien se passer. Puisque je suis accompagné de deux excellents co-animateurs que j'aime d'amour, à commencer par Sophie Krupa. Salut Sophie.
Bonjour JK, moi aussi je t'aime.
Merci, c'est gentil. Sophie alias Force Rose, hein, peut-être que vous l'avez connaissé sous le nom de Force Rose sur ZUSD, et tu es directrice artistique du magazine JV.
Oui, et aussi co-présentatrice d'ABCD.
Et co-présentatrice d'ABCD, évidemment, le podcast des parents geeks, je pense que je vais bientôt devoir l'écouter.
Bah oui, on va pour
ça. Et on a avec, évidemment, Christophe Collet. Salut Christophe.
Salut, ça va?
Oui, très bien. Christophe qui est journaliste aussi, tu es journaliste donc pour les magazines Video Gamer et PC Gamer.
Oui.
Et tu es quasiment un habitué, parce que tu es déjà venu peut-être deux fois dans le Rendez-vous Jeu,
oui,
il me semble.
Deux fois. Ouais. Mais là, du coup, on a le droit de dire des bêtises?
Alors, comme Patrick est là, alors, le truc, c'est que Patrick, quand même, ça reste le boss, tu vois, donc, il est un peu à droit de regard, et s'il y a de la censure, voilà, c'est pas ZQSD, j'ai de l'eau à côté de moi, j'ai pas une bière. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Donc voilà. Sophie, toi, c'est la première fois, je crois, que tu viens.
Non, j'ai déjà fait un.
Ah, t'avais déjà fait un Rendez-vous Jeu. Ah oui, avec Diraine, il me semble.
Oui,
c'est
évidemment.
Ça, exactement. T'as Grom qui présente aussi ABCD avec toi.
Ouais.
Le but, c'est qu'on, toutes les deux minutes, on parle de ABCD pendant toute l'émission.
Ou de ZQSD, ouais. On est un peu les squatteurs.
Voilà. Attends, on en profite. Attends, Patrick est pas là.
Les squatteurs petits cassiers.
Pour cette émission, on va parler pas mal pognon, hein, puisqu'on va faire un petit tour des résultats financiers. Toutes les grandes entreprises ont publié leur résultat financier pour le premier trimestre, de 2016. Mais on va pas tout vous détailler parce que ça va être un petit peu long, un petit peu ennuyeux. On va parler de Sony quand même, on va parler de Microsoft, de Activision Blizzard, mais aussi de Sega. Hein, oui, comme quoi, Sega est toujours là. Et il y aura après évidemment toutes les autres news qu'on passera plus ou moins rapidement. Alors je vous propose de commencer tout de suite par les résultats financiers des sociétés. Alors commençons par quand même le leader aujourd'hui sur le marché de la console, qui est Sony. Sony, c'est pas contrairement à ce qu'on peut penser, Sony d'une manière générale, c'est pas vraiment la joie, puisque ils ont annoncé quand même un chiffre d'affaires donc de 15 milliards de dollars pour ce premier trimestre, ce qui semble quand même énorme, mais ce qui est quand même de 10% inférieur à ce qu'ils avaient fait au même trimestre 2015, et avec un bénéfice. Alors ils sont quand même en bénéfice, hein, ils font 546 millions de bénéfices, mais qui est en baisse de 42%. Donc globalement, voilà, Sony, c'est pas non plus, ils ont pas des pertes, mais c'est pas non plus incroyable. Mais au milieu de ce marasme, parce que évidemment la branche Sony, c'est énorme, hein, c'est des télés, c'est des smartphones, etc. La branche télé, smartphone, des Walkman, effectivement.
Et comment se porte la branche Walkman de Sony?
Écoute, j'ai pas détaillé j'ai pas décortiqué suffisamment le document financier pour en arriver là.
Très très mal depuis que le Discman a fait son apparition.
Le Discman, je pense que le mini disque, à mon avis, devrait pouvoir reprendre le poil de l'arrière, remonter un petit peu. Mais au sein de cette division, évidemment, enfin de ces résultats qui sont pas foufou, il y a la division Sony, il y a la division PlayStation, évidemment, qui elle tout va bien, hein. On est à 3 milliards de chiffre d'affaires, avec quand même une hausse de 14% par rapport à l'année dernière. Ils disent que voilà, en grande partie c'est grâce aux ventes de Uncharted 4, sans donner de chiffres, parce que voilà, ils n'ont pas donné les chiffres exacts de ventes d'Uncharted. On sait juste que le jeu s'est vendu a priori la première semaine à 2,7 millions d'exemplaires. Voilà, donc a priori, de toute façon, si j'imagine que les gens qui ont une PS4, il y a quand même de grandes chances qu'ils aient Uncharted 4. Voilà, est-ce que vous, Sony, c'est toujours cette boîte à deux facettes, avec d'un côté effectivement des produits tech qui sont ce qu'ils sont, mais qui marchent plus très bien, les smartphones, les télés, et de l'autre, PlayStation. Est-ce que vous avez une analyse fine et intelligente ou pas?
Moi, je crois que justement, j'ai pas filé un rond à Sony depuis le mini-disque, je crois, justement. Peut-être que je leur en veux, finalement. Donc, ouais. S'ils font tous ces incroyables bénéfices, c'est pas grâce à moi, malheureusement. Je suis pas du tout...
Mais même sur les consoles, t'as pas eu de PlayStation 3, PlayStation 2...
Non.
Ah ouais, c'est vrai. Non. C'est pas vrai. Non. Même la 1, même la PlayStation 1, tu l'avais pas?
On me l'avait prêté. Tu vois,
ah ouais, donc tu l'as pas
besoin d'acheter. Ah ouais, non,
ouais, effectivement.
Sony me déteste.
Et toi, Chris, tu as un avis sur le résultat?
Je pense qu'ils peuvent, cela dit, ils peuvent s'estimer heureux, par exemple, qu'Uncharted 4 ait si bien fonctionné, parce que même si le jeu enfin moi je le trouve vachement bien, mais c'était pas forcément une espèce de carton commercial assuré comme ça. Moi je me souviens que tu vois, tu disais en annonçant ça il y a deux secondes, je pense que n'importe qui ayant une PlayStation 4 un peu sérieusement à Uncharted 4, sur PS3 par exemple, ça a vraiment pas toujours été le cas. Mmh. Et si la série, nous on l'a super bien noté très vite, parce que le 2 est phénoménal et que le 2 récoltait des 20 sur 20 partout, etc. C'est pas une série qui a cartonné autant que ce qu'elle laisse penser, quoi, si tu veux. C'est pas un Assassin's Creed. Mmh. Alors, évidemment, comme elle est pas multi-support, bien c'est entendu, ça. Mais même ramené au nombre de machines sur PS3, ça a été un carton qui a mis du temps à se mettre en place. Et par exemple, il me semble, alors à vérifier, hein, ça sera une connerie, ça sera dit, mais il me semble que The Last of Us à l'unité s'est vendu mieux que les épisodes, alors pas évidemment les épisodes en cumulé, mais il me semble qu'aucun épisode d'Uncharted s'est vendu par exemple aussi bien que The Last of Us.
C'est probable, hein. Je sais que The Last of Us a été un vrai vrai carton, et que effectivement à l'époque on disait que Uncharted c'était en termes d'image, etc., c'était le fleuron de Sony, mais que c'était pas des ventes incroyables. Enfin, puis il faut pas oublier que c'est une licence qui est née sur PS3. Voilà, Uncharted le 1, voilà, c'était un bon jeu, mais c'était pas incroyable, et c'était pas ce que c'est aujourd'hui, quoi.
On peut penser que la PS4 bénéficie probablement, mais c'est la même chose que depuis bientôt 3 ans, c'est-à-dire de cette espèce d'effet. On sait qu'elle se vend très bien, mieux proportionnellement, plus rapidement que la PS3. Je ne sais pas si c'est valable, mais je pense que c'est toujours valable.
Oui.
Donc, elle a quand même cet effet de bénéficier d'une espèce de gap de ceux qui avaient une PS2, n'ont pas forcément eu de PS3 et arrivent sur la PS4. Et du coup, il y a cette espèce de cercle vicieux qui se met en marche, qui fait que, bah, effectivement, ces jeux cartonnent et permettent à Sony de compenser les Walkman et les Discman et les conneries comme
ça. Voilà, on n'est plus à 99, enfin, là, on en est au smartphone.
Tu disais que tous ceux qui ont une PS4 ont acheté Uncharted 4, mais est-ce que Uncharted 4 a fait acheter des PS4? Parce qu'il y a des gens qui vont acheter.
Certainement, certainement. Moi, je pense que les packs de Noël avec une, enfin, de Noël, ouais, pas forcément, mais les packs avec Uncharted, ça s'est vendu comme des petits pains. Ouais, clairement, s'il y a bien une killer app une killer app, c'est donc ces jeux qui vous font acheter une console sur la PS4, ce serait Uncharted. Ça me semble assez évident. Alors que paradoxalement, même si le jeu est aimé par beaucoup de gens, c'est pas forcément, tout le monde n'a pas été unanime et dithyrambique sur la qualité d'Uncharted 4. Je connais, même au-delà des journalistes, hein, j'ai des amis qui ont été un poil déçus par le jeu, quoi.
Ben parce que justement, alors bon, bah pareil, on n'est pas là, je vais pas te faire la critique de le test, le retest de Uncharted 4, mais c'est vrai qu'ils ont voulu y injecter quelque chose qui est un peu plus proche de The Last of Us, avec des persos un peu plus comme ça, le ton est un peu plus posé au début, donc je pense que assez facilement, il y a des gens qui peuvent avoir trouvé ça, pour dire simplement, un peu mou du genou, et au début, voire même un peu à la fin, pourquoi pas un peu au milieu, je sais pas, Et donc, c'est vrai qu'il est un peu différent des trois autres. Moi, pour revenir sur Sony en général, je suis quand même un tout petit peu étonné de ce que je vois quand on a préparé l'idée de parler de ça, là, sur le fait que la partie smartphone fonctionne pas bien.
Ouais.
Tout bêtement, c'est vrai que j'en ai un. Et pour comparer à tout ce qui fonctionne et ce qui tourne un peu sous Android, je parle sous ton contrôle, JK, hein, monsieur smartphone.
Ouais.
Moi j'ai tendance à plutôt bien aimer les gammes et trouver assez efficaces les gammes Z. Je suis un petit peu étonné que fonctionne pas de ce côté-là, mais il y a sans doute des choses qui m'échappent. Bah,
là, c'est vrai que c'est un tout petit peu du jeu vidéo, mais c'est vrai que Sony a fait d'excellents smartphones. Ces derniers smartphones sont un peu moins bons. Je sais que les collègues au boulot qui testent les smartphones Sony sont moins dithyrambiques qu'avant. Par exemple, la division smartphone a perdu 33% par rapport à l'année dernière. C'est extrêmement compliqué, mais acheter du smartphone aujourd'hui, t'as Samsung, Apple, les marques chinoises qui montent et les autres, quoi. Et les autres, ça devient de plus en plus compliqué, quoi.
Mais voilà, mais pour revenir à PS4, je pense qu'il sort toujours sur cette idée de ceux qui n'ont pas forcément eu de PS3 et que pour qui c'est la nouvelle console depuis celle d'avant, et du coup c'est vrai que le marché PS4 cartonne, quoi. Alors paradoxalement, et on en parlera sûrement en enchaînant sur Microsoft, que c'est pas forcément eux qui ont plus d'exclus, c'est pas forcément Hein, écoute, mais
en termes de transition, je pense que on peut mieux tomber. Alors pour Microsoft, effectivement, alors Microsoft, c'est pareil, c'est une énorme société hein, qui fait pas que du jeu vidéo. Ça va plutôt bien, hein, puisqu'on a quand même 20,6 milliards de chiffre d'affaires, un petit bénéfice tranquille de 6,2 milliards de dollars.
Bon, ça reste honnête, on va valer plein.
Voilà, on se reste honnête. mais au sein de cette jolie réussite, il y a quand même un vilain petit canard qui s'appelle la division Xbox, qui elle est en baisse de 33% quand même. Alors, Microsoft a arrêté de donner des chiffres de vente hein, de la Xbox One depuis un petit moment. Ça fait quelques temps. Ils se contentent de dire on attend. Mais alors justement, pour le côté un peu positif, ils annoncent que le Xbox Live a connu une hausse du nombre d'utilisateurs. Il y a 49 millions d'inscrits. Sur le Xbox Live, et il y en avait 39 millions l'année dernière. Ça ne veut pas forcément dire que ça rapporte plus d'argent, mais bon, il y a quand même beaucoup de personnes inscrites au Xbox Live, mais on imagine que ces gens-là ont aussi Windows 10. Donc, qui dit Windows 10 dit forcément, enfin pas forcément, mais probablement aussi inscription sur le Xbox Live. Alors, c'est vrai que bon, Microsoft, voilà, s'en tire très bien avec Windows, avec le cloud, avec ce genre de choses, mais spécifiquement sur le hardware, on sait très bien que ça fait des mois qu'ils ont que c'est compliqué. Ils sortent la Xbox One S, peut-être qu'on en dira deux mots juste après, mais avant vous, est-ce que vous voyez la tendance s'inverser ou vous pensez que c'est un peu mort pour Microsoft sur le jeu vidéo là pour cette génération?
Sophie, ça a pas l'air de décoller. Enfin, je suis pas forcément spécialiste de ce genre de truc, mais rien qu'à voir autour de moi, mes potes, la plupart de mes potes sont des gamers et si je dois compter ceux qui ont une One, je les compte sur le doigt d'une moufle, quoi, tu vois.
C'est exactement ça. Ouais, il suffit de voir autour de nous, effectivement, ce marché. Bon après. Historiquement, je crois qu'en France, on a toujours été un pays PlayStation, comme l'Espagne, l'Italie, etc. Mais aux États-Unis, c'est différent, mais bon.
Tu sais, on dit souvent que Microsoft réussit ses Windows 1 sur 2. Peut-être que les Xbox, c'est pareil. Hein. La première était naze, la 360 ouais, a bien marché. Ouais. Ça a l'air raté. Peut-être qu'il faudra attendre celle d'après, j'en sais rien.
Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y a une théorie. Bah, on verra pour la prochaine génération si on a une, hein, ce qu'ils
ouais,
en font.
Ouais.
Et toi, Chris?
Bah non, mais déjà bon, le truc du Xbox Live, c'est vrai que c'est quand même des chiffres, tu sens les chiffres un petit peu compliqués à interpréter, parce que le Xbox Live c'est aussi le Silver. Moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as un compte sur ta Xbox, il te faut un compte Xbox Live pour Live, tu vois, c'est-à-dire la plupart des jeux multi qui nécessitent d'être connectés, bon bah tu veux jouer à The Division sur Xbox, il va bien falloir que t'aies un compte Xbox Live, etc. Bon bref, et puis il y a Windows, etc. Après sur Microsoft. Je pense que la dernière fois, il me semble que avec Patrick, la dernière fois que je suis passé, je disais déjà le même truc. Alors ça fait un peu t'invite le même mec, et puis il sort.
Tes analyses sont tellement brillantes qu'on s'en lasse pas.
Ouais, voilà, c'est ça quoi. Je pense que la Xbox One souffrira toujours de cette espèce de lancement calamiteux. On en a déjà parlé plein de fois, d'espèce d'incompréhension. Et les mecs ont beau faire ce qu'ils veulent, ça fait au moins 2 ans qu'ils font des bons E3 en annonçant des bons jeux. Des exclus. Alors là, le problème de cette année, c'est que tout d'un coup, les exclus n'en sont plus, parce que ce qui devenait des exclus Xbox deviennent des exclus.
Ah bah le Windows et Xbox exclusifs, quoi, les fameux exclus, quoi.
Et là, tout d'un coup, on a quand même un vrai problème pour la Xbox, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si t'as un PC, qu'est-ce que tu irais faire avec ta Xbox One? Alors je sais qu'on en a déjà parlé, tous les arguments se valent pas, mais c'est vrai que tout d'un coup, de transformer les Forza Horizon, les Gears of War, le Record qui va arriver en septembre, tous ces jeux-là ne sont plus des exclus à proprement parler, c'est des exclus Microsoft, mais plus Xbox. Bon, bah ouais, ça pose un vrai problème de qu'est-ce qu'on fait de cette machine-là, quoi.
C'est aussi une façon, peut-être, justement, au moment des bilans financiers, de gonfler un peu le truc artificiellement en disant, voilà, on a tant de millions de joueurs Xbox Live en comptant les jeux PC, parce que de toute façon, effectivement, je pense que le fait qu'il y ait aussi les exclus, les jeux soient aussi sur PC, bah ça reste tout bénef, parce que les gens qui ont un PC, de toute façon, de course, ils n'auraient pas acheté une Xbox One de toute façon, je pense.
Ouais. Et puis après, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un problème de jeu, vraiment. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'avoir dit, je sais plus, je parlais avec un pote et je lui dis, voilà, je lui sortais cette rengaine là, mais tu comprends, c'est quand même super. Les mecs ont beaucoup d'exclus, tu regardes leurs conférences, ils ont des trucs datés, précis, vraiment dans des genres particuliers qu'il n'y a pas forcément chez Sony, etc. Enfin bref, tu regardes leurs conférences depuis 2 ans, il y a du matos. Et le type me répond, bah ouais, d'accord. Mais sauf que ces jeux, ils ont beau en avoir plein, moi, il n'y en a pas un auquel j'ai envie de jouer. C'est-à-dire que c'est bien d'afficher plein de trucs, mais je pense que, je sais pas, peut-être que les jeux parlent pas assez. Le Gears 4, t'as l'impression peut-être, c'est pas forcément ce que moi je pense, mais le Gears 4, t'as l'impression d'avoir fait le tour. Le Record, un jeu d'action-aventure post-ap, bon d'accord. Le Forza, c'est pas une série qui cartonne.
Non, c'est sûr. Quand,
alors, quand. Et le mec me dit, ok, c'est sympa, toutes tes exclus, mais en fait, moi, quand je regarde le listing, bah en fait elles me font pas envie. Et Sony, il suffit que les mecs te dégainent un, j'en cite n'importe quoi, un The Last Guardian, et bon bah ça y est, ça suffit. Ou un Uncharted 4, et ça suffit. Et donc au moment de faire les comptes, c'est bien beau d'additionner les trucs, mais peut-être que les jeux, je sais pas, il y a peut-être un déficit de charisme, de cachet dans les jeux qui font que c'est bien beau de les accumuler, mais si personne veut y jouer, ça sert à rien, quoi.
Quand t'as un tel retard comme ça, un tel écart entre deux bécanes d'une même génération, c'est hyper dur de remonter, puisque tout simplement les gens achètent la bécane que leur cercle d'amis ont déjà. Et les gens, ça devient un cercle vertueux ou vicieux selon de quel côté tu es. Mais si tout le monde c'était ce qui s'était passé à l'époque de la PlayStation, de la PS2, tout le monde avait ça, donc les autres achetaient ça aussi. Donc pour que des gens achètent des Xbox One, il faut que tous leurs potes en aient déjà une. Bah, ça commence à concerner de moins en moins de monde. Je pense que c'est pour ça qu'ils essaient aussi d'aller vers la cross-platform avec les PC. Je pense même qu'ils sont même en train de complètement se dire, de focaliser complètement sur le PC et peut-être pas de laisser tomber la console, mais.
C'est vrai qu'on peut peut-être jouer les Madame Irma. Je le fais des fois, je le fais souvent à tort, mais imaginez que effectivement, ce qu'ils vont faire avec la Scorpio, qui a l'air d'être quand même de plus ou moins qu'une espèce de gros PC, peut-être que leur but, si cette politique marche de vraiment de faire du PC, c'est de plus vraiment faire de consoles particulières et de vendre un mini PC entre guillemets à tel prix qu'il va faire tourner les jeux Xbox de toute façon garanti, mais qui sera tout ni plus ni moins qu'un PC. Et puis derrière, si toi tu veux t'acheter ton PC de brut à 2000 balles, bah tu le fais, quoi.
Ils ont l'air aussi de vachement tabler grâce à Windows 10 sur le dématérialisé. On les voit bien tenter avec leur espèce de boutique en ligne là, qui pour l'instant est totalement insignifiante, mais est-ce qu'ils vont pas essayer de l'imposer un peu partout et d'essayer de tuer avec des énormes guillemets Steam et d'essayer de proposer un écosystème comme ça de jeux.
C'est clair que je pense qu'ils sont assez jaloux de la réussite de Steam en disant on a complètement raté le coche à l'époque alors qu'on était le système d'exploitation largement dominant. Et bon, alors est-ce qu'ils arrivent un peu tard? Je pense que ça va prendre beaucoup de temps de rattraper le Steam qui est installé, qui est riche, qui a un catalogue très complet. Pour le moment, le Windows Store, c'est une blague, quoi. Enfin, quand tu vas dessus, t'as envie de te pendre, quoi.
Bah donc voilà, on sait pas, c'est vrai que pour l'instant on sait pas trop où va Microsoft, où va Xbox.
Ouais, non, mais là ça me paraît forcément un petit peu compliqué, parce que comme tu le disais, il y a des cercles qui se mettent en place, enfin vertueux ou vicieux suivant de quel côté tu te places, mais au niveau des joueurs ça marche, et ce qui marche aussi au niveau des joueurs est valable aussi au niveau des éditeurs, c'est-à-dire que les éditeurs, quand ils voient la console qui se démarque, et tu le vois d'ailleurs sur les salons à l'E3, à la Gamescom qui va arriver, ils te proposent les DLC en exclusivité sur telle machine. Microsoft en a encore, mais petit à petit, tu sens bien que les éditeurs, ils se tournent là où il faut se tourner. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a Inside, dont on nous parle depuis un milliard d'années sur Xbox, en nous disant, le jeu indé Xbox, etc., où on apprend qu'il va pas tarder à se pointer sur PlayStation 4.
Ça, franchement,
Il y a la fameuse histoire du Tomb Raider qui va nous arriver en fin d'année, quelques mois plus tard, presque un an, mais bon, quasiment un an plus tard, sur PlayStation 4, dans une version hyper complète, pif paf.
On en parle tout à l'heure, donc don't spoil. Donc,
Du coup, d'accord. Mais les éditeurs, le cercle vicieux ou vertueux se met aussi en place à leur niveau, et pour casser ça, c'est hyper compliqué, voire infaisable.
C'est complexe, ouais, c'est sûr. Mais justement, maintenant, peut-être Microsoft quand même ne lâche pas complètement l'affaire, puisqu'ils viennent de sortir la Xbox One S, cette fameuse Xbox qui avait été annoncé à l'E3, qui est une Xbox One, donc petit format, je crois 40% plus petite, il me semble.
Ouais.
Avec plus d'adaptateurs qui pourraient aussi lourd qu'un parpaing, là, qui est plutôt pas mal. Je l'ai essayé rapidement au boulot, mais avant de donner peut-être mon avis, Chris, Sophie, je sais pas si vous avez eu le temps, si vous l'avez vu.
Non.
Ouais.
Chris, vas-y.
Moi, honnêtement, c'est quand même une... C'est bien de le faire, on sait bien que les constructeurs font ça toujours à mi ou tiers parcours, etc. Moi, maintenant, je trouve ça quand même franchement naze vis-à-vis de ceux qui l'ont acheté. Moi, j'en ai une d'Xbox, évidemment, c'est mon boulot, mais enfin, de toute façon, j'en aurai une parce qu'il y a des jeux qui me plaisent dessus. Ouais. Bon, ce putain d'alimentation qui pèse 3 tonnes, que tu poses à côté de ta console et qui vibre suivant le meuble que tu as, qui fait une espèce
de... C'est une feature, t'as pas compris.
Voilà, c'est ça. Donc tu ne peux pas laisser ta Xbox One en veille, parce que quand tu laisses ta Xbox One en veille prolongée, t'as ton alim qui fait bzzz comme ça. Bon, Voilà, plus le disque de 500 gigas que quand la console sort il y a 3 ans, tu sais déjà ouais, que
c'est,
ça va
c'est
être
quoi, 500 gigas, c'est chaud. Hein.
Oh. 3 ans plus tard, t'as la console un peu clean, il n'y a plus la ligne pourrie, il t'emmerde plus avec Kinect,
mais bon,
le disque
ouais.
dur il fait 2 Tera. Bon, tu dis, ok, d'accord, ça sent un peu l'injustice quand même, quoi. Maintenant,
mais oui, mais j'ai envie de te dire, ça fait quand même depuis la génération précédente que qu'ils ont fait ça. Sony l'a fait, mais avec la PS3, la Xbox 360 a eu la version Slim. C'est pas nouveau, hein, qu'ils aient des versions.
Non,
oh, attends, et puis parlons de Nintendo avec les Nintendo DS déclinées à 10 exemples, à 15 versions différentes.
C'est pas nouveau. La seule petite différence, c'est que quand la première Xbox One sort, tu sais déjà ce qui va pas. C'est-à-dire, c'est pas comme si la console allait. C'est-à-dire que la lime, c'est déjà relou.
Ouais.
Parce qu'ils l'ont fait, sur la console d'avant. Et
oui.
Tu es déjà en train de te dire, putain, pourquoi elle y est encore? Et le disque dur de 500 gigas, tu sais déjà qu'il est trop court.
Ouais,
donc,
sûr.
Évidemment que c'est pas nouveau, sauf qu'en fait, il y a 3 ans, tu sais déjà qu'elle est relou ta console et que quand celle d'après va arriver, tu vas dire, bah oui, évidemment que je voulais un disque dur de 2 Tera, quoi. Donc, bon, elle est classe, elle est blanche, elle est mignonne. Moi, bon, ben voilà, mais bon, alors après, qui achète ça si c'est ça la question?
Bah, disons que, voilà, enfin, c'est 2 Tera, bon, c'est une petite console qui est plutôt bien finie. Après, moi, je trouve qu'elle a un argument qui est ce qu'elle est, alors qui s'éloigne encore une fois du jeu vidéo, c'est que c'est le lecteur Ultra HD le moins cher du marché. C'est-à-dire qu'elle est capable de lire aujourd'hui les Blu-ray Ultra HD qui, bon, se développent tout doucement, c'est Blu-ray qui sont compatibles avec les télé 4K. Un lecteur Ultra HD, ça coûte extrêmement cher. Un bon lecteur aujourd'hui, ça coûte aller au bas mot 600 €. Là, pour 400 €, t'as le lecteur de Blu-ray Ultra HD qui a priori fait le job. Donc, ça peut être un argument comme à l'époque où, souvenez-vous, tout le monde a acheté une PS2 parce que c'était le lecteur DVD le moins cher. Sauf que le Blu-ray Ultra HD, je sais pas si les gens vont acheter autant de Blu-ray Ultra HD que de DVD à l'époque.
Bah, ça peut être un argument. Alors, par contre, et ce que je vais dire, il faut pas le voir comme une espèce de mauvais procès au truc, etc. Et moi, je peux pas donner de conclusion parce que je l'ai pas essayé. Il faut quand même voir ce qu'il vaut. Parce que là, pour le coup, je vais généraliser avec la PS, que ça soit la Xbox One ou la PS4. On le sait bien, mais n'empêche que c'est quand même vendu comme ça. C'est pas les lecteurs Blu-ray de l'année, si tu veux. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont pas.
Alors pour l'avoir essayé, pour avoir discuté au boulot avec le collègue qui l'a testé en tant que Blu-ray lecteur Ultra HD, c'est très correct. Hein. C'est vraiment le c'est pas forcément ce qu'il y a. Ça n'arrive pas au niveau d'un truc à 800 balles, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché et ça reste tout à fait correct. Hein.
C'est une bonne
chose là-dessus, mais. Pour moi, c'est pas un argument suffisant pour que. Enfin, sauf si vraiment t'es un cinéphile, t'as une télé 4K et que tu veux en profiter.
Ah bah, dans la mesure où il faut avoir la télé 4K, déjà, ça limite au niveau.
Ouais, voilà. Et puis également l'autre argument, alors ça se voit pas forcément, je pense pas à l'œil nu, mais donc la finesse de gravure de, je pense du processeur, enfin je vais pas dire de bêtises, mais la finesse de gravure est meilleure, ce qui fait que elle est un poil plus puissante en termes de rendu et certains jeux tournent en 4K. Je sais que par exemple moi j'ai joué à Doom en 4K dessus, ça a de la gueule, ça tourne très bien, c'est plutôt pas mal.
Elle est un poil plus puissante. Microsoft promet que sur les jeux qui vont arriver là, le rendu des couleurs notamment et le jeu de contraste, parce qu'ils une espèce de système HDR dont j'ai oublié le nom là, couché dehors, fera que les jeux comme Forza, Gears, etc., normalement, tu mettrais les deux versions côte à côte, c'est-à-dire version S et version Xbox One classique, tu verrais des différences de rendu de couleur, de contraste.
Oui. Bon, après, bon. C'est comme les mecs qui font les comparaisons PS4, Xbox One.
Enfin, ouais, voilà.
Est-ce que tous les jeux vont être compatibles? J'espère que oui, normalement.
Tous les jeux sont compatibles. Tous les jeux, je crois que tous les jeux ne tournent pas forcément en 4K.
Ouais.
Mais oui, tous les jeux sont là-dessus, il y a aucun souci. Oui, c'est vraiment une Xbox One.
Bon, après comme primo achat de Xbox, en remplacement de la Xbox One classique, il n'y a rien à dire. Pour le coup, c'est top. C'est-à-dire qu'elle est au même prix. Il y a les versions avec les disques durs un peu plus légers qui vont arriver, qui permettent que si t'as que 320 balles à claquer, eh ben t'as quand même l'équivalent de l'ancienne, puisque donc avec le disque dur de 500 gigas, il y a la celle en 1 Tera qui arrive aussi. Donc après, en premier achat d'Xbox, tout d'un coup tu te réveilles, t'as envie d'une Xbox. Moi, je suis très content pour ceux qui vont aller en magasin.
Ouais, c'est carrément autre chose que l'espèce de box internet immense qu'il y avait avant, quoi.
Là, il n'y a rien à dire, quoi. Maintenant, en termes de re-achat, bon, moi, je te cache pas que même si je la trouve très jolie et qu'il n'y a plus la lime, je vais quand même pas claquer 400 balles pour en racheter une, on est d'accord.
On est bien d'accord. Effectivement. Bon, si vous avez rien ajouté sur Microsoft, on va passer à un autre géant du jeu vidéo, lui qui ne fait pas de machines, c'est Activision Blizzard, bien entendu. Alors pour eux, là aussi, hein, c'est plutôt pas mal. Hein, ils s'en sortent très bien. Chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars. J'ai l'impression d'être sur BFM depuis tout à l'heure. bénéfice net de 126 millions, qui est un petit peu en baisse, hein, 212 millions l'année dernière. Mais surtout, la locomotive d'Activision Blizzard, c'est, vous en doutez, c'est Blizzard. C'est pas forcément Activision, même si ça va pour eux, parce qu'avec leur King, ça se passe plutôt bien. Blizzard, quand ils ont annoncé leurs chiffres, ils se sont félicités du résultat de la sortie d'Overwatch, qui est apparemment un carton incroyable. Alors, ils donnent pas de chiffres de vente du jeu, mais ils disent qu'il y a 15 millions de gens qui jouent à Overwatch. Ça peut être des gens qui utilisent le même compte, ça peut être c'est pris en compte. Et qu'en Chine, Overwatch a battu le démarrage de Diablo 3, et c'est devenu le meilleur lancement d'un jeu PC sur le marché chinois, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je termine avec les chiffres, hein. Donc Hearthstone, tout va bien, croissance annuelle à deux chiffres. Alors je sais plus, on doit être à 50 millions de joueurs là sur Hearthstone, je sais pas. Le niveau de World of Warcraft Légion, oui, World of Warcraft existe toujours, et Légion sort à la fin de l'année, je crois, un truc comme ça, ou peut-être en novembre.
Légion il sort à la fin du mois là, le 30.
À la fin du mois, je dis des grosses bêtises, effectivement. Apparemment les précommandes sont à peu près aussi bonnes que sur l'extension précédente, donc l'engouement est toujours là, hein. C'est plutôt une bonne chose. Ils ont confirmé que Destiny 2 sera lancé en 2017. Voilà, donc tout va plutôt bien pour Activision Blizzard. C'est toujours une boîte qui fonctionne bien. Mais moi, c'est vrai que ça m'étonne pas. Hein, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est les chiffres d'Overwatch. Moi, je sais que quand ils ont annoncé Overwatch, voilà, premier FPS, nouveau genre de jeu, nouvel univers. Je dis ok, ça a l'air cool, mais le succès n'était pas garanti. Est-ce que vous avez senti le succès d'Overwatch arriver?
Bah, le succès était pas forcément garanti, mais en même temps, c'est vrai que t'as un peu l'impression que cette espèce de mélange de Blizzard, qui ne rate pas grand chose, si c'est pour pas dire rien, c'est-à-dire que quand ils font leur jeu de cartes, Hearthstone, t'en as parlé, c'est la folie furieuse, quand ils font World of Warcraft, machin, que ça soit leur Starcraft, etc. Donc, le côté Blizzard avec sa recette dont on a déjà parlé, c'est-à-dire, voilà, le polish parfait, l'espèce de gameplay hyper intuitif, etc., plus le genre en vogue, quoi qu'on dise, c'est-à-dire le FPS en multi, bon, calculé comme ça, si tu veux, il y avait vraiment un côté poule aux œufs d'or plus poule aux œufs d'or égale ça cartonne total, quoi. Donc, sans aller jusque-là, je sais pas, c'est vrai qu'en même temps, tous les indicateurs étaient au vert quand même.
Oui, c'est sûr. Après, il y avait quand même de la concurrence sur ce marché. Alors, ils sont arrivés avec un genre un peu différent, avec le système de héros, etc. Mais il y avait déjà des gens installés. C'est vrai que bon, après.
Oui, mais regarde, pour le MMO, c'était pareil. Ouais. Blizzard, ils ont jamais inventé de genre. Ils sont toujours arrivés à un moment où il y avait un genre qui cartonnait et ils arrivaient avec une version pas plus simple dans le sens.
Ils arrivent à démocratiser un genre, en fait. Quasiment.
Ouais, voilà, plus facile à prendre en main, plus joli, plus rigolo, comme World of Warcraft a fait avec le MMO.
Complètement. Et là,
Overwatch, c'est pas très étonnant. Si
oui, c'est pas très étonnant, c'est vrai, mais c'était un plus gros pari. Alors, cela dit, Hearthstone, c'était un pari aussi, hein, quand Hearthstone avait marqué.
Hearthstone, c'était un immense pari. Le jeu de cartes, tout d'un coup, c'est-à-dire que, bon, moi, par exemple, ou quelques amis, etc., j'avais jamais joué à ce genre de truc. Tu vois arriver ça, tu te dis, bon, d'accord, et t'essayes ça, et c'est génial, et ça cartonne, parce qu'ils y ont mis tout leur savoir-faire, parce qu'un jour, ça sort sur mobile ou iPad, et c'est génial, encore une fois. Et Blizzard arrive ils arrivent encore et toujours, malgré la diversification, malgré le probablement, on l'a vu un petit peu, l'intensification des sorties que demande l'association avec Activision, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Blizzard, ça fonctionne plus, genre, c'est quand même plus tout à fait un jeu tous les 5 ou 6 ans, et puis ça sera prêt, tu vois, ils ont beaucoup de choses, hein. Ils ont leur DLC, ils ont les nouveaux genres. Ces dernières années, ils ont quand même lancé Hearthstone, Heroes of the Storm en MOBA, Overwatch, les DLC pour leurs autres trucs, etc. Donc, ils intensifient quand même. Et malgré ça, ils ont toujours cette espèce de touche incroyable qui fait que c'est génial, quoi. C'est génial à jouer.
Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a, alors, je la passe pas tant, je voulais la passer après, mais il y a une rumeur. Alors, les rumeurs, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a l'air plutôt plutôt sérieux comme rumeur, qu'ils annonceraient à la rentrée un remake. Alors pour le coup, ils ont jamais fait de remake, un remake du premier StarCraft qui serait annoncé en septembre et serait présenté vraiment à la BlizzCon de novembre. Moi, ça me, alors je sais pas si c'est vrai, mais ça me, je sais pas, je Blizzard n'a jamais fait ça. On sait qu'ils voulaient embaucher des gens pour travailler sur des projets autour de Diablo et de StarCraft, mais on savait pas exactement ce que c'était. Est-ce que vous imaginez déjà, est-ce que vous avez envie de jouer à un remake de StarCraft? Est-ce que vous imaginez que
pourquoi un remake plutôt qu'un StarCraft 3 par exemple?
Parce que ça coûte beaucoup moins cher à développer, je sais pas. Et quoi qu'on en dise, le STR tel qu'il est avec StarCraft 2 est quand même s'est fait bouffer par le MOBA, donc je pense que peut-être que pour le côté purement nostalgique, voilà, ils sortent un remake, une version HD, je sais pas moi, du premier StarCraft, qui vont vendre 10 balles, je sais pas.
Ah bah moi, tu vois, StarCraft, ça me parle pas énormément parce qu'on est dans un genre particulier qui est pas le mien. Maintenant, si demain ils m'annoncent un remake de Diablo ou Diablo 2, c'est impossible que j'en ai pas envie, quoi, tu vois.
C'est très possible, ouais, c'est sûr. Après, on sait aussi peut-être qu'il y aura peut-être possibilité de transport vers le mobile. Alors, est-ce qu'ils oseraient faire une version de StarCraft 1 pensée pour le mobile et le tactile? Là, je sais pas.
Ah, c'est audacieux, ça, quand même.
Là, ce serait audacieux, effectivement. Bon, là, c'était une petite rumeur pour terminer sur Activision Blizzard. Et enfin, pour terminer les chiffres de ce numéro, on va parler de Sega. Figurez-vous que Sega Sammy, bah, ça va plutôt bien. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce que l'année dernière, ils avaient une grosse perte. Ils ont perdu 69 millions d'euros l'année dernière, quand même. Et cette année, ils ont quand même un petit bénéfice opérationnel de 26 millions d'euros, 3 milliards de yens, ce qui est, bon, évidemment, comparé aux chiffres qu'on a donné tout à l'heure, c'est un peu ridicule, mais c'est pas la même société non plus. Et alors, c'est marrant parce selon eux, ce qui a marché, bon, bah, c'est le retour, la remontée au Japon de tout ce qui est pachinko. Vous savez, les pachinko, c'est ces fameuses machines à billes, là. Si vous avez été au Japon, que vous êtes rentré dans une salle de pachinko, vous avez dû perdre 3 points d'audition parce que c'est assez insupportable. Ils ont dit que aussi, alors je vous avoue, j'ai découvert ça en lisant le communiqué. Ils ont lancé Phantasy Star Online 2 sur PS4, qui apparemment a établi un record de joueurs connectés simultanément, donc 130 000. C'est assez impressionnant.
Ouais, d'accord.
Voilà, vous en fichez, je pense, mais.
Oui.
et surtout, pour terminer avec les chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont plutôt contents des chiffres de jeux PC et console, puisqu'ils ont distribué 2,41 millions de jeux entre avril et juin, et ils sont très contents des chiffres normalement de Total War, des Total War et de Total War Warhammer. Alors, c'est marrant parce que là, on a vraiment le Sega, purement japonais, le Sega éditeur PC qui marche plutôt bien, donc c'est plutôt bien. Donc ils ont revu leur prévision à la hausse pour l'année prochaine. Ils prévoient de livrer 2 millions de jeux PC et console. Puis ils ont Yakuza qui arrive. A priori, c'est eux. Alors, je pense qu'ils distribuent, mais qu'ils font Persona 5 aussi au niveau de la distribution.
Ouais, donc
c'est plutôt positif.
Non, c'est sûrement une. Enfin, non, c'est pas sûrement. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, en soi, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle quand t'es fan de Sega en tant que. Enfin, moi, c'est bien qu'il y ait une entreprise qui s'appelle Sega et qui fasse des résultats. Je suis très content pour eux, mais ça veut pas dire que fondamentalement, ce qui me parle à moi va marcher et qu'ils vont revenir vers moi, c'est-à-dire des vrais gros jeux consoles, etc. Total War Warhammer, c'est un exemple. Mais c'est un bon exemple, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'au final, ce que tu nous dis, c'est que d'une part, ça marche avec les pachislots, etc. Donc ça, c'est sympa. Je suis très content du pachislot code machin et des pachinko, mais c'est pas trop le Sega que moi j'espère. Et ce qui marche aussi, c'est leur gamme de jeux mobiles, si tu veux. Et
ouais, Sega, ils sont blindés de microtransactions.
Après la période d'Alien, comment il s'appelle le Alien machin?
Alien Colonial Marines.
Alien Isolation. Bon, voilà que effectivement, on arrêtait un petit peu. C'est un peu cette période-là qu'ils avaient choisi, il me semble, pour annoncer qu'on allait un peu se détendre sur les gros blockbusters PC et console et qu'ils allaient se recentrer. Et du coup, bah, ce que tu nous dis là, moi, je peux me tromper, mais je l'entends comme le résultat de ce qu'ils avaient dit, à savoir on se recentre sur le pachinko et le mobile. Donc qu'ils fassent de bons résultats avec ça, c'est bien, mais moi, si tu veux,
ouais, mais d'un autre côté, tu vois, ils sont plutôt contents de leur vente de jeux classiques, donc de blockbuster finalement, hein.
Ouais, d'accord, mais il y en a pas 15 000, c'est Total Warhammer, jeu de stratégie sur PC,
tout à fait. Mais c'est sûr que l'époque du Sega qui faisait Shenmue, Street of Rage et Sonic, elle est passée, quoi. Toi, Sophie, en tant que fan de Street of Rage, tu sais, j'ai pas tant qu'on te résume que à ça, des fois, mais, toi,
qu'est-ce que
non, mais je crois que t'es plutôt fan de Sega, enfin, t'es plutôt une fan de Sega de la grande époque, toi.
Moi, j'adorais Sega à l'époque. Ouais. C'est vrai que quand ils ont arrêté de faire des consoles, j'ai fait partie de ces gens qui ont été tristes. Et en même temps, j'ai pas forcément envie que cette époque revienne. Enfin, faut pas qu'ils commencent à gagner un peu trop de sous et s'imaginer qu'il faut qu'ils refassent des consoles. Je pense qu'ils se replanteraient, les
Oui,
pauvres.
non, ça, je pense que ça n'arrivera pas.
Bah, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, annoncer là que ça va un peu mieux, c'est bien pour eux, mais c'est le résultat d'une politique qui est malgré tout un peu éloignée de celle qui pourrait nous. Et encore, je dis ça, et en même temps, je veux quand même, pardon, revenir un petit peu là-dessus et juste relativiser mon truc, c'est qu'il y a quand même une série qui est chouette, qui est pas assez connue chez nous et qui cartonne, c'est Yakuza.
Oui.
Et là, par exemple, ils viennent d'annoncer la sortie sur PS4 en janvier, je crois, de Yakuza 0. Qui est un préquel de la série et qui sort enfin chez nous, et il est sorti au Japon, je crois, l'année dernière. Et ça, c'est vachement bien. Et cela dit, effectivement, si on peut les suivre au moins sur Yakuza et leur donner envie de sortir ce type de jeu chez nous, là, super, là, je suis d'accord, là,
Ah,
je veux
c'est
bien.
sûr. Non, mais c'est sûr, ils
Et puis
connaissent la
voilà,
matière.
puis de renouer avec les bénéfices, ils vont sûrement investir dans des nouveaux. Enfin, ça donne espoir à ce
Ouais,
qu'ils
faut voir,
relancent des.
mais après, oui.
Ah!
Après, je sais qu'ils, enfin, ils continuent un peu d'exploiter comme ils peuvent Sonic. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais
Mais oui, je pense que
c'est vrai
voilà.
qu'ils
Le mot
citent pas trop
exploiter est
les
juste.
ventes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que les mascottes de Sega telles qu'on les a connues n'existent plus. Enfin, clairement, en tout cas, quand tu vois les résultats et ce qui marche, pas du tout ça, quoi.
Bah non, j'ai
À
pas.
part Phantasy Star Online, qui est une série un peu historique de Sega, voilà,
Ils
quoi.
jouent pas sur la nostalgie, ça c'est sûr, hein. C'est pas
Non.
avec ça
Bah
qu'ils
alors.
font leur fond de commerce.
Ah bah tu m'as fait une excellente transition parce que là
Ah, je sais.
on en a parlé là on en a fini un peu avec les gros chiffres, on va passer à des news peut-être un peu plus légères. Et justement, vous avez sans doute suivi l'annonce de la NES Mini le mois dernier, peut-être vous l'avez précommandé comme moi qui suis un peu un pigeon.
Bah oui.
Toi aussi Chris, tu l'as précommandé?
Mais oui.
Ah super, je me sens moins seul. Et du coup, alors Sega, alors j'allais dire Sega, on profite pour la même chose, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Sega ressort, enfin la marque chinoise qui fabriquait des Mega Drive portables et des Mega Drive de salon ressort ses produits du placard avec des nouvelles versions un peu redesignées, j'ai l'impression, donc de ces Mega Drive portables, des petites Mega Drive de salon. Donc ce sont des machines. Alors ce qui est marrant, c'est que ça a fait un peu le buzz parce que tout le monde a titré en quoi, en gros, Sega pour contrer la NES Mini sort une Mega Drive
Oui.
portable, une mini Mega Drive. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que ça fait
Ça
des
fait
années,
des années que ça
voilà,
existe.
ça fait des années que ce truc existe, mais là ça ressort. Donc si vous voulez vous faire un trip à nouveau, plutôt voilà, avec 80 jeux intégrés pour je crois les deux machines, la version portable et la version de salon.
Plus que la NES Mini à 30 jeux.
Exactement,
Oui.
voilà. Et c'est fou parce que 80 jeux Mega Drive, c'est quand même beaucoup. Je sais pas
Oui.
si il y a vraiment tout, hein. Il y a vraiment tout, les Sonic, les Street of Rage, ça
Ah
c'est
non,
hyper
il y a
complet.
pas mal de trucs. Maintenant, c'est vrai que, bon, bah, comme tu dis, le truc de cette petite Mega Drive, elle est chouette, mais d'une part, en vérité, c'est déjà connu. Et donc, ça fait quand même moins l'événement que
Ouais,
la NES
clair.
Mini. Et puis, c'est vrai que la NES, comment dire, le trip du truc, c'est que, bah, c'est la vraie. Enfin, c'est la vraie. C'est pas la vraie, mais disons qu'ils ont repris le design, t'as la manette, et
Ouais.
c'est bête, mais ça joue vachement cette idée
Mais
que
grave.
c'est vraiment Nintendo qui te ressort sa
C'est
petite
ça.
NES.
Oui, c'est ça. Puis c'est Nintendo qui le fait, alors que là, la copie
C'est nous.
chinoise.
Donc il fait, c'est pas une espèce de boîte chinoise qui te fait une fausse Mega Drive. Et c'est con parce qu'en vérité, peu importe. Mais sauf que ce qui nous fait adorer ce truc-là, c'est ça aussi, quoi.
Oui, c'est un produit, l'autre, c'est un produit purement Nintendo, donc forcément, et puis le fait que ce soit une vraie NES Mini, c'est juste trop mignon, t'as envie de l'acheter
Ah
direct,
voilà,
quoi.
c'est ça, c'est vraiment trop mignon. Tu la veux sous ta télé tout de suite,
Ouais,
quoi.
c'est sûr. Toi, Sophie, t'avais craqué à l'époque pour une Mega Drive portable, un truc comme ça, ou t'as encore tes vieilles Mega Drive?
J'ai encore ma vieille Mega Drive. Enfin, d'ailleurs, que j'ai prêtée il y a quelques années à quelqu'un qui, s'il nous écoute, Pras, tu me la rends quand tu veux, ma Mega Drive.
Ah bah, Pras,
Mais
on
oui.
connaît, donc oui, il a intérêt. On sait où t'habites, Pras,
Mais
hein, fais
donc, du
gaffe.
coup, non, moi, j'ai encore ma Mega Drive et mes jeux. Donc.
Ouais, puis c'est vrai que la qualité de ces produits-là est quand même souvent relativement douteuse.
Ouais.
Les manettes, c'est pas forcément enfin les manettes d'origine, c'est même pas le design d'origine. Enfin voilà, c'est voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais sachez que ça existe. En tout cas, si à l'époque quand vous avez vu la NES Mini, vous avez dit ah oh, mais pourquoi ils font pas ça pour Sega?
L'avantage de ces trucs-là, enfin, c'est que ça lie les cartouches, c'est compatible avec les cartouches, alors que la NES Mini, c'est 30 jeux,
Ouais.
tu peux pas en rajouter d'autres et ça lie pas
Voilà.
les
Et
cartouches,
puis
c'est vraiment ces
ouais.
30 jeux-là et basta.
C'est ça. Et puis en plus, Nintendo verrouille énormément le.
Ouais.
Hein, on va parler un peu piratage, mais sur ces machines-là, tu peux mettre une carte SD et souvent tu peux mettre les jeux que tu veux. Ça passe tranquille, quoi.
Oui, alors que
Effectivement.
voilà.
Ouais. Alors pour en terminer cette fois-ci avec Sega, on va continuer nos petites news. Alors, comment dire, Eidos Montréal a enfin annoncé que Deus Ex était terminé, a été Gold après de multiples retards. Le jeu sort, Chris, peut-être tu vas savoir, le 19 août, le 20 août?
23 août.
Et voilà, le 23 août, donc cette fois-ci.
Bah, il est tellement gold qu'on est déjà en train d'y jouer.
Alors, voilà, alors on peut, voilà, c'est ça. Faut qu'on fasse genre un peu, mais c'est vrai qu'on a, en tout cas, dans la presse de vidéo, a reçu les versions review. Ce qui est quand même, alors pour le coup, je fais une parenthèse, mais ce qui est quand même de plus en plus rare de recevoir une version de jeu aussi en avance.
J'étais extrêmement surpris. Voilà, pour l'anecdote, nous, on est en train de finir des magazines qui sortiront à peu près quand le jeu arrivera. Mmh. On était évidemment persuadés qu'on n'allait pas le tester dans ce magazine-là parce qu'on n'aurait pas le temps, ce qui fait qu'on avait préparé des dossiers sur les dernières fois qu'on y avait joué. Il y a des gens qui ont écrit des papiers vachement bien ou moins bien d'ailleurs. Et puis, bah, résultat, on a tout bazardé au dernier moment parce que là, il y a Square Enix qui nous dit « Hey les mecs, on a la version test, vous voulez y jouer ?» Et donc, pour info, effectivement, t'as raison, pour expliquer les trucs, c'est quand même très rare aujourd'hui d'avoir une version définitive d'un si gros jeu 15 jours à l'avance comme ça, même un peu plus de 15 jours à l'avance. Ouais, c'est clair.
On est bien d'accord. Alors évidemment, tu peux pas vraiment parler de. Enfin, j'imagine qu'on est sans embargo. Toi, tu es sans embargo pour le test. Mais par rapport à ce que t'as vu en preview sur le jeu, t'es plutôt confiant sur la qualité de ce Deus Ex.
Écoute, ouais, vraiment. Moi, j'avais bien aimé leur premier retour dans l'univers Deus Ex avec le Human Revolution qui était sorti il y a 4-5 ans, je crois, en 2011. Mais c'est vrai qu'il y avait. C'était quand même bon. Techniquement, c'était pas la folie. Tu sens qu'ils essayaient beaucoup de choses. Les boss avaient fait parler parce qu'ils avaient sous-traité des combats. Les combats de boss étaient tout
ratés. C'était le gros défaut qui était pointé du doigt dans le jeu.
Et là, honnêtement, c'est vachement bien. L'univers est superbe. C'est hyper permissif, mais vraiment. C'est-à-dire que tu as accès à tout. Tu vas partout. Le moindre petit appart, le moindre truc, bon voilà, je rentre pas forcément dans les détails parce que déjà je sais pas ce que je peux dire et puis ça sert à rien
donne la note finale, c'est rapide.
Moi je pense que quand tu as aimé celui d'avant, il est bien meilleur, et puis même si t'as eu quelques réserves sur l'épisode d'avant, je sais pas pourquoi mais c'est autorisé, je pense que c'est un vrai bon jeu là qui arrive, et meilleur que leur précédent, et ça va être un très bon jeu d'action, aventure, infiltration, RPG, ce que tu veux, il est vraiment réussi.
Ok. Bah très bien, donc ça sort le 20 août, on vous rappelle. Sophie, toi, Deus Ex, ça te parle ou pas?
J'ai jamais joué à Deus Ex, mais celui-là me donne envie.
Ouais.
Je commence à m'y intéresser de très près.
D'accord. Sans transition, alors on va parler un petit peu de VR parce que vu que c'est moi qui présente et que Patrick est pas là. Alors d'habitude, pour le coup, on a parlé de Blizzard, hein, donc ça va. Il y a eu la dose Blizzard d'Overwatch vu que Patrick est pas là. D'ailleurs, j'ai pas eu le choix en fait de parler de Blizzard. Il m'a dit. Les Oculus Touch arrivent. On sait toujours pas quand. Ils ont annoncé une date de sortie cette année. Alors les Oculus Touch, je rappelle, c'est les contrôleurs de reconnaissance de mouvement de l'Oculus Rift qui sont plutôt ergonomiques, hein, contrairement au Vive. Ce sont pas des manettes, ce sont des sortes de bracelets, plus ou moins des bracelets que tu vas mettre autour de la main. Mais la vraie info, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour à préparer l'arrivée des touches, l'Oculus Rift maintenant supporte jusqu'à 4 caméras de reconnaissance pour faire vraiment du room scale, donc le fait de pouvoir se déplacer dans l'environnement, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent, puisqu'il y avait une caméra où tu pouvais quand même bouger un peu la tête. Mais là, c'est pas mal, on sent qu'ils veulent vraiment aller sur ce terrain, parce que mine de rien, maintenant, quand on parle de VR, le Vive a tendance à bouffer tout l'espace médiatique, parce qu'il y a ce fameux room scale où tu peux déplacer. Le fait qu'il y ait 4 caméras, je trouve que ça plutôt cool. Alors évidemment, le problème c'est qu'il faut investir. Déjà, ça coûte cher, donc il va falloir acheter des touches et 3 caméras supplémentaires. Je suis curieux de voir quand même les prix.
Est-ce que finalement, ça va pas monter au même prix qu'un
Vive ? On va y arriver, hein, parce qu'on est déjà à 600 euros plus de 600 euros pour le Vive, pour le Rift de base. Imagine ils vendent on va dire un pack avec une caméra en plus et deux Oculus Touch. Je pense que ça va bien coûter 150-200 balles. On va être loin à peu près quoi. Donc voilà, vous je sais pas si Sophie t'as essayé toi l'Oculus Rift. T'as essayé les deux d'ailleurs, t'as essayé le Rift et le Vive.
Ouais.
Qu'est-ce que tu
Le Rift, je l'avais essayé il y a un moment, je pense que c'était pas la version finale. Il y avait pas encore les
non,
contrôles.
C'était la version de développement kit.
Donc c'était version développeur et du coup enfin on avait suivi nous un peu à la rédac l'évolution un peu de la VR entre le moment où tenez il y a des gars qui se relancent dans la VR regardez on a reçu le premier proto et on a vu un peu les évolutions et jusqu'à présent moi c'est surtout le Vive qui m'a mis une sacrée claque où là tu te dis là t'as vraiment c'est pas juste une démo technique, il y a un bon potentiel de faire des trucs, mais du coup, je suis curieuse de voir la dernière version de l'Oculus Rift pour pouvoir.
Ouais, carrément.
Pareil, quoi.
Ouais, c'est sûr. Chris, toi, t'avais pu essayer les deux casques ou pas?
Ouais, mais bon, il y a longtemps, et puis moi, les dernières fois que j'ai joué, c'est surtout, c'est con, hein, désolé, mais à celui de la PS4.
Ouais, jamais essayé celui-là.
VR, qui sort le 13 octobre.
Je me souviens d'avoir essayé l'Oculus sur il y a 2 ans, mais non, je suis pas très au point là sur le truc VR là. J'avoue, tout ce que ça m'inspire effectivement, c'est que quand même, c'est vachement bien, mais au-delà du prix, c'est vrai que là, ça nécessite des configurations de jeux qui sont vraiment très particulières, quoi, si tu veux, quoi. C'est-à-dire que t'imagines tes 4 caméras, ton espace pour évoluer.
C'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Ça va être compliqué. Et puis, en plus, ces 4 caméras qui sont, contrairement à ce que fait le Vive, qui sont reliées en USB au PC, alors que le Vive, il fonctionne juste de manière électrique. T'as juste à les relier au courant. Là, 4 caméras reliées d'un PC, où est-ce que tu les places? Enfin.
Ah ouais.
C'est toujours le paradoxe de la VR qui est super sympa, mais chez toi, en vrai, comment tu fais, quoi?
Ah bah, chez toi, en vrai, ouais, t'as intérêt à créer
une salle dédiée, oui, c'est ça.
Une salle VR, c'est bien.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment une salle VR.
Est-ce que les enfants ont vraiment besoin d'avoir leur propre chambre, finalement, hein?
Bah, franchement, alors que franchement, tu les mets dans une petite boîte avec un casque de verre qui simule une vraie chambre.
Bah, voilà.
Là, ils sont heureux, tu vois, tu les laisses, voilà,
ça vous fait un bon thème pour ton prochain podcast, là.
Voilà.
Effectivement. Alors, tiens, on va reparler de VR rapidement puisque Rise of the Tomb Raider arrive sur PS4. J'ai plus la date parce que j'ai mal préparé cette émission, évidemment.
Octobre.
Donc à peu près un an après la sortie sur Xbox One, et le jeu était sorti sur PC là au premier trimestre 2016. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une version hyper enrichie. Alors il y a une mission où tu pourras explorer le manoir avec tu pourras de Croft avec des avec le PlayStation VR, c'est plutôt rigolo je pense. Pas mal de DLC, un mode coop, un mode où tu as des zombies.
Ils y mettent tout le contenu, c'est-à-dire de les DLC, voilà, le lien du sang qui est une espèce d'aventure solo qui se décline en VR avec une exploration du manoir comme tu disais. Tu peux repousser, il y a un mode de jeu où tu repousses une espèce d'invasion de zombies, ouais. Etc. Ils y mettent les packs de costumes, ils y mettent les missions. D'ailleurs, ils y mettent tout ce qui est sorti. D'ailleurs, c'est pour ça que il n'y aura pas de season pass sur PS4 parce que c'est la version définitive et finale du jeu.
Effectivement.
Non, oui.
Non, effectivement. Ouais, donc c'est moi je trouve ça plutôt intéressant parce que mine de rien, bon, c'est un jeu qui s'est mal vendu sur Xbox One. Je sais pas du tout si c'est ouais, ça a pas été du tout un gros succès. Je sais pas si c'est bien vendu sur PC alors que c'est vraiment pas un mauvais jeu. En plus là, ça va permettre aux gens mine de rien qu'on finit Uncharted 4 d'avoir la dose d'aventure un peu épique comme ça, exotique. Moi je suis plutôt content. Enfin, en plus c'est une belle version, donc je sais pas si vous avez joué à Rise of the Tomb Raider. Ouais.
C'est pas un mauvais jeu, il manquerait plus que ça, mais par contre, c'est un jeu méga flemmard. C'est-à-dire que je sais pas ce que t'en penses, mais quand même, si tu as joué ou pour qui a joué au Tomb Raider de 2013, c'est un duplicata. C'est-à-dire qu'on frôle le remake quand même. C'est le même type d'environnement, les mêmes interactions. Ah non, attends, écoute, pour moi.
C'est quand même plus enneigé, plus.
Ça se dans la nature où il est très beau. Il est il est plutôt complet. Il y a cette espèce de design de mi, c'est pas vraiment ouvert, mais de grandes zones que tu peux refréquenter un peu comme tu veux, une espèce de semi petite zone ouverte qui se complète les unes les autres dans une map un peu plus grande. Mais moi j'ai trouvé ça, c'est un chouette jeu, c'est une chouette aventure, mais hyper flemmard. Et quand je pense à Crystal Dynamics qui a dû jouer, les mecs avec un peu de chance, ils ont quand même une PS4 et histoire de jeter un œil, ils ont joué à Uncharted. J'espère un tout petit peu qu'Uncharted 4 leur a dit « Eh les mecs, il y a un peu mieux à faire que un duplicata de celui de l'année de 3 ans plus tôt. » Moi, j'ai trouvé ça flemmant.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, pour me mettre de l'autre côté de la barrière, Uncharted 4 est un jeu que j'ai adoré, mais qui, d'un point de vue gameplay, n'a pas évolué depuis le 2, quoi. C'est la même chose depuis le 2 en termes de recettes pures de jeu. Alors, ok, ils ont agrandi, etc. J'adore la narration, j'adore plein de trucs comme ça. Mais il n'y a pas d'innovation incroyable dans Uncharted 4 non plus, hein.
C'est des détails, je suis d'accord, mais tu vas quand même avoir une petite séquence un petit peu minutée où il faut déverrouiller un truc avant qu'une espèce de petite séquence en split screen où tu as d'un côté ton acolyte qui doit occuper quelqu'un pendant que toi tu déverrouilles un truc. Tu vas avoir une espèce de, c'est pas beaucoup utilisé, mais d'ailleurs au même endroit au début du jeu, tu vas avoir ce petit moment où tu dois fouiller dans la poche de quelqu'un, machin. T'as les séquences en voiture. Alors, t'as les séquences grappins où tu remontes cette espèce de, qui avait été vu en preview des mois plus tôt, où tu remontes un convoi ennemi en étant accroché à un grappin qui est
différent. Ça, c'est du Naughty Dog pur jus, quoi.
C'est pas d'une originalité dingue, mais sauf que, pardon, dans Tomb Raider, ces moments-là n'existent pas. L'aventure est efficace, elle est cool, mais c'est Lara qui alterne fusillade, énigme, fusillade, énigme, fusillade. Il n'y a pas de moment un peu originaux.
Ouais, écoute. Oui, je comprends. Je suis pas tout à fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le. Bon, on va pas refaire le côté de Tomb Raider, mais j'ai beaucoup aimé le côté. J'ai adoré la façon dont les temples dans Tomb Raider sont nombreux et planqués. Ça, ce côté. Il y a côté archéologue qu'il y a pas dans Uncharted pour le coup, qui est très sympa. Moi, j'ai bien aimé.
Et qui est développé par rapport à celui d'avant. Allez, va pour le côté archéologue.
Voilà, on va dire ça. Restons sur PS4 avec la news un peu OZEF de l'émission, puisque il y a Neverwinter qui vient de sortir sur PS4. Alors, Neverwinter, c'est un MMO free-to-play qui était sorti sur PC il y a quelques années maintenant, qui est sous licence Donjons et Dragons. Donc je le cite parce que finalement des jeux sous licence Donjons et Dragons, il y en a plus tant que ça, alors que ça pullulait dans les années 90. J'avais joué un peu à l'époque sur PC, c'était plutôt rigolo parce que ça prenait le parti d'un système de combat assez action, un peu limite beat'em all. C'était pas mauvais, tu pouvais en plus construire tes propres niveaux, etc. Comment, Chris?
Ah ouais, il est très chouette. Moi, si vous avez une PS4, parce qu'il est aussi sorti sur Xbox One, je crois, l'été dernier. Un peu à la même période l'année dernière ou celle d'avant, je m'y perds, mais il est sorti sur One il y a quelques temps déjà. Ouais. Et ça marche bien à la console. Il est free to play, mais te pousse pas à la conso, la dépense. L'univers, c'est du Donjons et Dragons, donc on a bien compris, hein, d'accord, c'est de la fantasy pure jus. Il est cool, vraiment, pour qui n'y a pas joué et aime le genre MMO et se dit tiens, j'aurais bien un petit MMO sous le coude sur ma PS4, faut y aller, quoi.
Mmh. Ouais, carrément. Et puis, je précise, c'est bête à dire, mais vous avez pas besoin d'être abonné PlayStation Plus pour y jouer. Oui. Donc c'est encore vraiment gratuit, pour le coup, c'est totalement gratuit. Donc c'est plutôt rigolo. Sorcerer, tu avais joué, toi, à l'époque, comme tu jouais un peu au MMO, enfin, tu joues toujours,
ouais,
je sais
non.
pas.
Non, j'ai un peu ralenti sur les MMO. Non, j'ai pas eu l'occasion de jouer à NFT.
Bon,
vas-y.
Ouais.
Tu peux le faire sur PC après. Bon, si t'as lâché les MMO, c'est pas non plus les MMO de l'année, on va pas se mentir. Hein, mais en même temps, vu qu'il y a plus des MMO qui sortent, donc c'est peut-être le MMO de l'année en fait, je ne sais pas.
Il y a plus énormément de MMO. Des MMO de l'année, il y en a pas 15 000. Ouais, celui-là, il est free to play. Honnêtement, c'est un bon truc.
Ouais, c'est plutôt sympa. Il y a le premier épisode de Life is Strange qui est désormais gratuit. Moi, je trouve que c'est une super idée parce que Life is Strange, c'est bien. C'est un jeu qui a bien marché, donc ils n'étaient pas obligés de le faire en plus. Donc maintenant, on peut choper le premier épisode gratuitement et découvrir ce jeu qui est épisodique, hein, vous en doutez, qui est, je crois, 5 ou 6 épisodes. Donc voilà, c'est super.
Ouais.
Je trouve qu'ils ont vraiment raison de faire ça. Enfin, quand des jeux épisodiques sont sortis depuis un moment, de proposer le premier épisode gratuitement quelques années plus tard, je trouve ça plutôt malin finalement.
Ouais,
ça peut faire découvrir à certains retardataires.
On rappelle que c'est créé par Dontnod, donc studio français qui avait fait Remember Me et qui travaille actuellement sur Vampyr, qui est un RPG complètement très différent, un RPG avec des vampires, vous en doutez, édité par Focus.
On a le droit de pas être d'accord avec moi, mais j'en profite pour prévenir. Alors, si vous essayez le premier épisode de Life is Strange, que vous trouvez ça cool et que vous vous dites ça sera vachement plus cool après quand ça décollera, ça décolle pas.
Ah oui, t'as trouvé que ça retombait, toi?
Écoute, non, mais on en a. Bon, voilà, pareil, c'est des discussions qu'on a eues. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est une chouette petite aventure. J'irai pas jusqu'à en faire comme beaucoup l'ont fait. Je sais que par exemple, il y a des très gros sites qu'on considérait que c'était quasiment, pas quasiment d'ailleurs, le jeu de l'année 2015, mais tout confondu, hein, c'est-à-dire pas juste, voilà, la plus belle chose qui soit sortie en jeu vidéo l'année dernière. Moi, je trouve qu'il faut quand même pas pousser, que c'est une chouette petite aventure avec une ambiance cool, on l'a beaucoup dit, la bande originale, elle est super belle, une espèce de truc pop folk, ça raconte l'adolescence et tout. Moi, je trouve que c'est... ils ont un peu abusé. Il y a trop d'épisodes où on joue pas assez. Je trouve qu'au bout d'un moment, on se moque un peu du monde, un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Je sais pas si t'allais machin, mais ils vont faire une série.
Ah non, oui. Je savais pas ça, tu vois.
Ils vont faire une série live.
Attends, une série live avec des acteurs et tout.
Ouais.
Voilà, ils vont faire une série live. Et autant ça s'y prête très bien, mais je pense que voilà, ça sera presque aussi bien. Je trouve que voilà, ça fait un peu au bout d'un moment série Life is Strange. Moi, il y a beaucoup de moments où j'aurais aimé jouer, où j'étais devant mon truc et je me dis putain, ça quand même, j'aimerais le faire.
Puis en termes d'ambiance, autant le jeu vidéo c'était relativement nouveau ce genre d'ambiance, mais en série au cinéma, j'ai l'impression qu'on en a vu 10 000 des trucs comme ça, quoi, avec des adolescents, de la musique folk.
Bah ils sont en train de mettre une série live en chantier. Mais bon, effectivement, ça vaut le coup de s'y essayer. Moi, je trouve que c'est un chouette petit jeu. Mmh. C'est déjà pas mal, mais plus, c'est beaucoup pour moi.
Eh oui. D'accord, très bien, merci. Alors, la PlayStation Vita, souvenez-vous, la PlayStation Vita, elle est toujours là. Et figurez-vous qu'elle a été hackée. Elle a été hackée, donc on peut maintenant lancer des homebrews, ce qu'on appelle des homebrews, donc des des softs qui sont pas approuvés, qui sont pas vendus forcément dans le commerce, et qui dit Homebrew dit forcément émulateur. Il y a beaucoup d'émulateurs qui sont fortis dessus, et apparemment je l'ai pas essayé hein, mais pour ceux qui en ont une et qui ont lancé des émulateurs, c'est assez cool, puisque faut savoir que la PlayStation Vita bénéficie d'un écran OLED, et l'écran OLED ça rend des couleurs extrêmement belles, extrêmement vives. Du coup les jeux rétro sont vraiment sublimés grâce à cette console, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que bon, la PS Vita elle est aujourd'hui malheureusement relativement morte, mais si vous êtes fan d'émulation et que vous voulez une petite console qui vous permet de jouer à des jeux rétro, c'est plutôt cool apparemment. Ça,
tu veux dire plutôt que la Mega Drive portable
chinoise. Oui, je pense que l'écran OLED sur la Mega Drive chinoise, ça m'étonnerait quoi.
Tu conseilles aux gens d'acheter une PS Vita et de la craquer, bravo.
Franchement,
bravo.
Ouais, la limite quoi. Mais non, mais en plus c'est un hacking. Alors c'est ce qui est plutôt sympa, je trouve. Enfin, plutôt sympa, plutôt bon esprit de la part des hackers. Ils ont hacké donc la machine, mais ils ont empêché le piratage. A priori, tu ne peux pas. Alors jusqu'à ce qu'un autre groupe de hackers débloque le truc, mais tu ne peux pas lancer de jeux pirates et de jeux copiés sur ce hack de la PS Vita. Tu peux juste lancer des homebrew, donc des logiciels qui sont pas tout à fait officiels quoi. Donc c'est ça, je trouve ça bon esprit en fait de pas encourager le piratage, mais d'encourager un peu la créativité, l'émulation. Parce que bon, l'émulation, ok, tu on va dire que tu télécharges un ROM de jeux Super Nintendo, est-ce que t'es vraiment dans l'illégalité, est-ce que t'es vraiment un voleur, voilà, c'est le débat est lancé, vous avez une heure, allez.
La loi te dira oui, c'est illégal.
Oui, oui, voilà.
C'est surtout bien que la PS Vita serve à quelque chose, quoi. Parce que on rappelle quand même un événement assez taré, c'est qu'à l'E3, son nom n'a pas été prononcé une fois pendant la conférence.
Ouais, bien sûr. Ah, c'est sûr, c'est triste. Hein. Enfin, c'est triste.
Il m'a donné envie. Je vais y réfléchir.
Bah, essaye. En plus, a priori, c'est très facile. Hein. Tu fais ça en deux clics. C'est très simple. Par contre, il faut mettre à jour dans la dernière version, je crois, et pas revenir en arrière. Enfin, je sais pas quoi. Bon, bref, allez sur taper PS Vita hack, c'est assez facile à trouver. Voilà. Quoi d'autre? Il y a encore quelques petites news à traiter. On a encore le temps. Il y a Quake Champion qui a été montré, puisque c'était la QuakeCon cette semaine. Donc la QuakeCon, c'est cette convention qui a lieu à Dallas depuis maintenant, plus de 20 ans, je crois, qui aujourd'hui est un peu la convention de Bethesda, hein, depuis que id Software a été racheté par Bethesda, et ils ont montré pour la première fois Quake Champion, qui lui a aussi été annoncé à l'E3. Donc il y a eu une vidéo de gameplay plutôt généreuse, je trouve, en images de jeu. Que dire, à part qu'on est vraiment dans du pur Quake en termes de feeling. J'ai l'impression que c'est vraiment hyper speed, hyper des sauts dans tous les sens, des armes de précision, enfin du railgun, des choses comme ça. Avec ce côté en plus qui dit Champion, qui surfe un peu sur la mode hein, des Overwatch & Co, avec des personnages qui ont des pouvoirs uniques. Vous, Quake, ça vous parle? Je sais pas, si je sais que toi, sur Soro, t'es pas très Sophie, t'es pas très très FPS.
Pas du tout.
Donc voilà, j'allais dire une expression un peu vulgaire, donc je ne le ferai pas. Chris, tu vois, Quake.
ça va trop vite pour moi, ça, en fait. J'ai essayé le multi de Doom, c'est l'enfer sur Terre, c'est le cas de le dire.
C'est pas très bon, le multi de Doom en plus. Hein.
Et puis c'est pas super en plus. Mais Overwatch, tu vois, par exemple, j'y joue parce que, alors pour être tout à fait honnête, Overwatch, moi je prends le healer hyper simple à jouer et je soigne ceux qui savent jouer et qui savent viser, quoi, tu vois. Mais j'ai regardé, c'est vrai que ça a de l'allure, etc. Mais c'est trop Quake pour moi.
Là, ils font exactement ce que les fans veulent, c'est-à-dire, t'as l'impression que c'est un remake de Quake 3 Arena avec en plus des personnages, des champions, des héros.
D'ailleurs, t'as bien tout résumé. La recette s'annonce mortelle à cet égard, quoi. C'est-à-dire que Quake 3 Arena, de mémoire, pour ceux qui assurent à ce genre de truc, c'est un régal. Ouais. Tu rajoutes à ça une petite surcouche Champions Heroes, et puis c'est top, quoi.
Ouais, complètement. On a vraiment un retour de ce genre de FPS. Enfin, il va y avoir Unreal Tournament qui est actuellement en bêta. Un nouveau Unreal Tournament je l'ai pas essayé, mais qui, de l'avis de pas mal de gens, est très très bon. Donc, moi, je suis hyper content parce que c'est vraiment le genre de jeu auquel je jouais quand il y a 15 ans quoi, même si je pense que mes réflexes sont un peu rouillés aujourd'hui, donc je vais me faire un peu poutrer. Je rajoute aussi le point QuakeCon, on a eu des images aussi de gameplay de Prey qui a été annoncé également à l'E3. Un petit trailer, on voit pas grand chose, mais moi ça m'a fait penser un peu vraiment à une sorte de ça ressemble un peu à BioShock aussi dans l'esprit, Half-Life aussi, enfin voilà, moi le peu qu'on en a vu m'a donné très envie quoi.
Ouais, mais on en a vu assez pour voir un petit peu où ils en étaient d'un point de vue technique, pour voir l'ambiance qu'ils voulaient donner à ça, et t'as raison, c'est une espèce de de mélange un peu, c'est un peu BioShock, un peu plus futuriste. Il y a une ambiance, bon, c'est quand je voulais parler d'un jeu où je suis sûr qu'il y avait un jeu avec Darkness là, mais j'ai oublié son nom.
The Darkness, non?
Ouais, peut-être. Enfin bon, ça fait penser à plein de trucs et honnêtement, ça a l'air bon. C'est culotté de relancer cette espèce de jeu qui est quand même maudit depuis des années où nous on a fait des presses. Moi, je me souviens d'être allé voir Prey 2 à l'époque où c'était Prey 2.
Je l'ai vu aussi, chez toi.
Voilà, où on était, où Bethesda avait organisé un truc aux USA pour nous montrer ça juste avant qu'ils n'en parlent plus jamais de leur vie. Bon, bah là, écoute, ils le relancent sous une forme différente. Je crois que c'est Arkane qui s'en occupe.
C'est une licence qui est en loi, c'est Arkane qui s'en occupe. C'est Arkane Lyon, je crois, alors que... Non, c'est Arkane Austin, je crois, alors que Lyon...
C'est Arkane Austin, voilà, alors que Dishonored, c'est Arkane...
C'est à Lyon.
Ouais, voilà, c'est
et
ça.
Et donc, voilà, moi, je trouve que Arkane qui s'occupe de ça, c'est parfait, quoi.
Ah ouais, non, c'est parfait, mais après, bon, effectivement, t'as raison, tu sens qu'on est dans le FPS Adventure avec autre chose, on n'est pas dans le pur shooter, on est vraiment dans une espèce de veine BioShock un peu plus futuriste.
System Shock aussi, hein, ça rappelle System Shock.
System Shock, et voilà, et non, mais oui, moi j'ai plus hâte, enfin voilà, quitte à regarder quelque chose de la QuakeCon, c'est ça qui m'a fait
plus que Quake Champion, bien sûr. Là, je rajoute une info sur Quake Champion, c'est vrai, là, les développeurs ont dit qu'ils ne savaient pas encore si le jeu serait gratuit ou payant, puisque clairement, ce genre de modèle de jeu se prête bien au free-to-play, hein, avec pas forcément tous les héros dès le début, etc. Un peu comme à l'époque Overwatch, on était tous persuadés que ça allait être gratuit, et au final, non, c'est 60 euros, les mecs, mais au moins, il y a tout le jeu, quoi. Donc voilà, à voir si Quake Champion est gratuit ou pas. Parlons de No Man's Sky, tiens. No Man's Sky, enfin il arrive, hein, celui-là on l'attend quand même particulièrement, il sort je crois après-demain, et ce qui est assez rigolo, c'est-à-dire que comme énormément de jeux, hein, il y a ce fameux patch Day One, donc cette mise à jour qui sort le jour même, mais alors c'est une mise à jour apparemment gigantesque qui modifie un nombre incalculable de trucs, ce qui fait que Hello Games, donc les développeurs, ont communiqué sur le fait que ils conseillaient fortement à ceux qui ont trouvé des exemplaires sous le manteau et qui jouaient déjà de recommencer leur partie, parce que on va dire que le jeu qui va sortir avec le patch Day One est extrêmement différent de ce qui est sorti aujourd'hui. Alors c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait ça, surtout si ça rend le jeu meilleur. Après voilà, c'est quand même est-ce que c'est pas aussi le fait qu'ils aient eu du mal à développer ce jeu et qu'ils sortent un patch au dernier moment comme ça qui modifie autant de choses, c'est pas un peu inquiétant, vous croyez?
Non, mais si, on en parlait tout à l'heure.
T'es en train d'y jouer, en plus, là, en ce moment, toi.
C'est qu'on avait reçu. Bah, d'ailleurs, le patch, j'allumerai la console et je mettrai le CD dedans, parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, je viens de le recevoir. Ouais. Je saurai s'il est disponible sur PS4 et combien il pèse. On va peut-être le faire vite fait en direct pendant qu'on discute.
Ouais, si tu veux.
Inquiétant, oui, je pense que, de toute façon, on voit bien qu'ils ont quand même galéré sur la fin de leur développement et qu'il fallait le sortir. Il a été décalé plusieurs fois. J'ai perdu le fil. Il devait sortir en juin. Avant de sortir en juin, il devait sortir en avril ou mai, sans parler. Bon, bref, rien qu'au printemps, il a été décalé de mémoire deux fois au moins, si c'est pas trois. Voilà, on sent que c'est quand même, on a une espèce de jeu un peu monstre. De rien, Hello Games, c'est quand même pas non plus, c'est pas un studio immense.
Ils sont 10, quoi. Bon, ça va pas bosser sur le jeu, enfin, peut-être un peu plus, mais.
C'est pas EA Sports ou Naughty Dog ou qui tu veux ou Blizzard.
Ubi Montréal par exemple, pour prendre les plus gros, quoi.
Oui, Ubi Montréal, etc. Donc on voit bien qu'effectivement ils ont galéré avec ça. Le jeu a fuité. Il y a des mecs qui ont effectivement expliqué qu'il y avait des espèces de bugs exploits qui permettaient un petit peu de rusher le jeu et d'aller beaucoup plus vite à rejoindre le centre de l'univers que ce qui était prévu. Alors que, pour rappel, le principe c'est quand même que t'as une espèce d'univers qui est généré de manière procédurale. Les mecs te disent, là j'ai le petit bouquin à côté, qui a 18 trilliards ou trillions, c'est possible, trilliards, c'est peut-être
ça doit, ouais, si c'est des, je crois, mais j'ai du mal à me représenter, mais oui,
de planètes qui vont être générées, et donc l'idée c'est de traverser tout ça, de découvrir des planètes qui seront ensuite sur lesquelles tu laisseras ta trace, et petit à petit, faisant ça, tu collectes des ressources et tu te rapproches petit à petit du centre de l'univers, etc. Et il y a des mecs qui manifestement ont réussi à aller plus vite dans le jeu que ce qui était prévu, parce que bon, ben, on n'est pas censé rallier le centre de l'univers en quelques heures. Et donc, effectivement, ils corrigent ça, ils corrigent d'autres trucs. On voit bien que la technique sur PS4, elle galère encore un peu. Donc, bon, ils ont fait comme tout le monde. Des patchs Day One, il y en a des tonnes. Il y a chaque gros jeu. Ouais, chaque gros jeu depuis quelques temps. Ubisoft, bon, ils sont connus pour ça sur les Assassins et compagnie. Quand Assassin's Creed sort, tu télécharges ton patch de Maboule, etc. Bon, voilà, quoi, c'est aujourd'hui, c'est un petit peu le quotidien du, le quotidien du joueur sur ce type de prod-là.
C'est sûr. Sophie, une réaction ?
Bah non, mais oui, les patch day one, quand tu sais un peu comment ça fonctionne, l'industrie du jeu vidéo, entre le moment où le gold part...
Ouais. Il a été annoncé gold. Vraiment. Il a été annoncé gold il y a genre 2 semaines. Hein, donc.
Ouais. Et le moment où ça sort vraiment, t'as des équipes qui continuent à bosser. Ils sont pas juste en train de regarder par la fenêtre. Et évidemment qu'il y a toujours des améliorations, un coup de polish. C'est souvent des bugs. Enfin, c'est limite devenu normal et ça serait inquiétant limite un jeu qui sortirait sans patch day one. Tu te dis bah alors.
C'est ça. Mais là justement, ce qui est encore assez fou, c'est que au-delà du, je sais pas si ça a avec des bugs, mais surtout ça modifie profondément apparemment le jeu, plein de choses.
Là oui, peut-être autre chose.
C'est assez impressionnant. Donc à tel point qu'ils disent que a priori ta progression n'est pas effacée, mais ils te conseillent fortement de recommencer le jeu quoi.
Ben oui, parce qu'apparemment, il y avait quand même des espèces de problèmes d'équilibrage dans la manière de collecter les ressources. Est-ce que ce que permettait de faire les ressources et donc, avec les ressources, d'avancer plus ou moins rapidement dans le jeu.
Ouais.
Donc, effectivement, quand tu as de gros problèmes d'équilibrage comme ça, sur un jeu comme celui-ci, ça change quand même beaucoup de choses, quoi.
Ouais,
mais ce qui est drôle avec ces trucs de patch, là, on sort de No Man's Sky, mais c'est vrai que moi, je connais quand même encore des gens qui sont connectés un peu à l'arrache avec leur console, parfois oui, parfois non, dans des coins un peu compliqués. Et tu penses quand même aux jeux qui sortent en disque et qui sont pas forcément patchés chez tout le monde. Tu te dis, putain, bon, c'est compliqué, quoi. C'est quand même un peu, et l'air de rien, chez nous, il y a quand même encore des gens qui ont pas forcément les moyens de patcher leur jeu day one.
Non, mais ça. même au-delà de ça, même si t'as une console, mais t'habites au fin fond du 77, excusez-moi pour ceux qui sont en 77, mais j'ai des amis qui sont encore en ADSL, 1 méga, quoi.
C'est
terrible, quoi, pour, même chez moi, des fois, ça m'arrive que le PSN soit un peu en rade, je me retrouve à devoir télécharger des patchs qui, ça dure 24 heures, enfin, je deviens fou, quoi. Mais maintenant, malheureusement, c'est comme ça, c'est rentré dans la norme et de toute façon on est à l'ère du tout dématérialisé, donc ça va pas aller en s'arrangeant, c'est certain.
Ça c'est sûr.
Enfin, dernière info que j'avais notée, je trouve plutôt sympa, ce sont les 30 ans, figurez-vous, de Metroid. Metroid, peut-être que ça parle pas aux joueurs les plus jeunes, parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vrais bons épisodes. Metroid, c'était une série créée par Nintendo, qui était sortie sur NES, avec Samus Aran, qui était à l'époque... je sais pas s'il y a une des premières héroïnes du jeu vidéo, mais il y en avait pas beaucoup. Hein. Sauf que tu découvrais que c'était une héroïne à la fin, puisque c'était une personne dans une armure, et tu découvrais à la fin la surprise que c'était une fille.
C'est que d'habitude les héroïnes de jeux vidéo à l'époque c'était le héros avec juste un nœud dans les cheveux.
Voilà, ouais, c'est ça. C'était Miss Pac-Man, ou alors fallait la sauver, fallait sauver la princesse, quoi.
Voilà.
C'est ça. Et donc ce sont les 30 ans de la série, et au-delà de ça, évidemment, c'est une excellente série. Un peu, ça a quasiment créé un genre, ce qu'on appelle le Metroidvania, parce qu'il y a aussi Castlevania à côté, avec un côté on explore des bases labyrinthiques. On récupère des pouvoirs, etc. Donc c'est les 30 ans de la série. Donc si vous avez des, et justement si vous voulez découvrir le jeu, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un fan du jeu qui est le jour des 30 ans de la série qui a sorti un remake. Il a complètement fait un remake de Metroid 2. Il s'est basé sur un épisode Game Boy Advance qui était Metroid Zero Mission, pardon. Il a refait tout le level design. Il a fait un vrai jeu en partant de ça. Je trouve ça assez génial. Sauf qu'évidemment ça ne plaît pas beaucoup à Nintendo. Et Nintendo est en train de partir à la chasse de tous les sites qui host le ROM de ce jeu, donc dépêchez-vous si vous voulez essayer de découvrir ce remake de Metroid 2. Bah il faut vous dépêcher quand même de le télécharger parce que voilà. Vous Metroid, ça vous parle? Il y a un épisode que vous préférez?
Moi j'ai pas trop joué, c'est le genre de jeu où j'ai essayé vite fait quand j'étais gamine, et comme j'étais pas douée, j'ai très vite laissé tomber. J'ai pas cette capacité à aller au-delà de mes limites.
C'est pas des jeux très difficiles en termes de réflexe et tout, mais par contre c'est vrai que des fois en termes d'exploration, c'est pas simple, quoi.
C'est pas forcément mon genre de jeu, mais...
Toi Chris?
Moi, c'est pas la série que je connais le mieux. Celui que j'ai le plus apprécié, il est pas très vieux, c'était le Other M sur Wii.
Qui était vachement décrié à l'époque, je crois, hein, parce qu'il était
était un peu décrié à l'époque, mais que moi j'avais adoré. En plus, pour un truc tout bête, c'est que c'était assez simple d'y jouer sans avoir à agiter sa Wiimote dans tous les sens. Il n'était pas vraiment conçu pour ça. et c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir là-dessus. Maintenant, c'est vrai que je suis pas un très grand nostalgique de Metroid. parce que je connais pas les plus vieux, donc
bah, tu voilà. sais, c'est une série un peu comme F-Zero, chose comme ça, qu'on fait un peu la gloire du Nintendo, ouais. qu'ils ont un peu laissé ouais. tomber, que les fans réclament, mais en même temps, tu dis, bon, s'ils en sortent un, c'est pas sûr que ce soit un succès incroyable.
C'est ça.
Alors que bon, enfin, moi, je sais que, j'ai pas du tout pris la série dès le début, hein, mais je sais que j'ai adoré Metroid Prime, les Metroid sur GameCube, qui étaient des jeux d'aventure à action à la première personne, qui sont formidables. Je rêve d'un nouveau Metroid Prime, avec même sur PC hein, quelque chose qui soit hyper beau et tout, et là je suis en train de refaire en émulateur pour le coup, j'avoue je suis un pirate, Metroid Fusion sur Game Boy Advance qui est fantastique, qui est vraiment un excellent Metroid en 2D à l'ancienne et tout, voilà, si vous voulez découvrir la série au-delà de ce remake de fan qu'il faut choper rapidement, bah essayez par les moyens que vous voulez, hein, Metroid Fusion qui est vraiment super, qui a pas vieilli du tout, Super Metroid sur Super Nintendo, et peut-être aussi le Metroid Prime, enfin les trois Metroid Prime qui sont sortis, deux sur GameCube, un sur Wii, qui sont vraiment très très bons, quoi. Donc voilà.
Et rien à voir, mais si c'est dans No Man's Sky, sachez que vous mettrez pas trois plombes à télécharger la mise à jour.
Elle fait
800 mégas.
Oui, je l'ai pas dit ça. Elle fait que 800 mégas. Alors c'est fou qu'elle change.
Alors moi je viens de le mettre dans ma console, la peur au ventre, tu vois. Je voyais arriver les 20 gigas.
Bon ça va. T'as quoi? T'es en fibre ou t'es en ADSL?
Ah mais non, mais ça y est, c'est fini. Je suis en fibre, mon petit vieux. C'est fini depuis 5
minutes.
Allez,
arrête de nous faire envie. Va jouer à No Man's Sky. Et puis,
oui, bah évidemment. Bon bah laissez-moi raccrocher.
Bon, non mais ça tombe bien puisque figurez-vous qu'on arrive à la fin de l'émission. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'actu. C'était le mois d'août, donc c'était pas évident forcément de trouver des tonnes d'actu. J'espère quand même que Patrick va pas m'envoyer une bombe colis piégé parce que l'émission était trop courte.
Tu as été formidable.
J'espère que ça a été. Mais en tout cas, merci de m'avoir. Merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Merci.
Beaucoup plus formidable que les circonstances quand même. On peut les préciser.
Effectivement, les circonstances, je raconterai peut-être ça après, mais ça a été compliqué d'organiser cette émission.
Vas-y, JK, dis-nous.
Non, mais je sais pas, parce que je viens d'avoir un bébé. Je ne dis pas de manière officielle parce que ça n'intéresse pas forcément la vie de tout le monde, mais ma vie n'intéresse pas tout le monde. Mais voilà, je viens d'avoir un bébé, donc il a fallu que je trouve du temps pour enregistrer cette émission. Voilà, donc merci beaucoup, Christophe et Sophie. Et pour terminer, vous allez nous dire où on peut vous retrouver à la fois dans la vie réelle, avec des gros guillemets, ça se voit pas, mais je fais des gros guillemets, et sur Internet, Sophie en premier.
Bah donc, vous pourrez me retrouver dans la rédaction de JV tous les mois. Là, on est en train de bosser sur le numéro qui va sortir en septembre. On a toujours notre numéro spécial été juillet-août dans les kiosques et un hors-série sur la Dreamcast.
Eh ben voilà, du Sega.
J'ai enfin réussi à leur... tu vois, mon
ouais, parce que c'est, de, c'est,
mon lobbying c'est depuis toi qui a fait toutes du ces lobbying années pour la, a fonctionné. Pour la Dreamcast,
ouais. Bah, c'est la meilleure console. Enfin, c'est la meilleure console qui ait jamais marché, enfin, qui s'est plantée de la vie, quoi.
Et ouais,
je sais pas si c'est pas très clair, mais...
en
tout cas, c'est une excellente console qui s'est plantée, quoi.
Évidemment, voilà, exactement. Et sinon, bah, sur ZQSD, donc on a avec toi, JK.
Ouais, un peu moins en ce moment, hein, parce que je vois que vous êtes parti en Bretagne sans moi, là, vous avez fait une émission.
T'étais en train d'accoucher. Donc, on a fait un hors-série cet été, on est parti 4 jours faire les stages.
Spring Breeze.
Les stages d'entreprise, tu sais.
Un colloque, non, pas un colloque ou un truc comme ça, ouais.
C'est ça. Et puis sinon, dans ABCD aussi, on a déjà 3 numéros qui sont sortis. Donc, c'est le petit frère de ZQSD, où on parle surtout de, en tant que parent, voilà, en tant que parent geek, qu'on a fait notre numéro 3, où on parle notamment des écrans, la relation entre les écrans et les enfants. Et on n'en fera pas en août, hein, on va attendre septembre.
Bah, la rentrée, hein, normal.
Ouais, exactement. Donc, voilà.
Merci. Et Twitter, t'as un compte Twitter?
Ah bah sur Twitter, @ForceRose.
Très bien, très simple.
La seule unique,
effectivement. Merci beaucoup, Sophie. Christophe, à toi.
À moi, comme tu disais en début d'émission, Video Gamer, on est en train d'en terminer un qui sort donc dans, je sais pas, je suppose dans 10-12 jours, un truc comme ça, et puis PC Gamer, sa déclinaison PC, et en prime, on aura un autre Mac ce mois-ci, un magazine entièrement hardware, c'est-à-dire un PC Gamer spécial hardware, dans lequel on a mis plein de belles choses pour justement pouvoir profiter de tous ces jeux-là au mieux, quoi. Donc on a fait fait une petite version hardware du mag, et donc ce qui fait qu'à la fin du mois, bah, il y a pas mal de magazines qui sortent.
Bah écoute, merci beaucoup, et tu as un compte Twitter je crois également.
J'ai un compte Twitter, mais là il faut être capable de sortir le truc. Ah oui, Christique, voilà. Mais il va y avoir un underscore.
Chris underscore tic, je crois que c'est Chris underscore tic, je le sais mieux que toi.
Je crois que c'est ça aussi. Ouais.
C'est ça.
Ne me cherchez pas, vous n'y arriverez pas.
Et très bien, alors quoi, pour ma part c'est donc Jean-Claude Loret, JK, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur @JKLoret, et entre deux biberons, peut-être sur ZQS dans septembre si j'arrive à me libérer.
C'est terminé ça mon vieux.
Mais
c'est
non, fini. Je vais revenir, regarde, j'arrive à faire des émissions là, alors que, hein, bref.
C'est affreux, t'es un monstre, t'es un monstre.
Bref, bah écoutez, merci en tout cas d'être venu, m'aider à se faire ce premier rendez-vous jeu sans Patrick, merci aux auditeurs en tout cas de m'avoir écouté. Oh, je me rends compte que je vais oublier de lire un message iTunes, j'étais censé lire un message d'un auditeur du rendez-vous jeu, bah je lis à la fin du coup, tant pis, hein. Alors c'est Jérôme M de France qui nous dit déjà un must have dans les traces du rendez-vous tech, mais pour les jeux vidéo c'est parfait et addictif. Du coup je pense que tu as très bien résumé le rendez-vous jeu, et tu as résumé Patrick aussi parce que c'est un homme parfait et addictif, donc voilà, il sera content que je lui dise ça.
Je vais ajouter un petit quelque chose.
Vas-y, bien sûr.
Dustin Hoffman a 78 ans aujourd'hui.
Eh ben, dis-donc, franchement.
Joyeux anniversaire.
Bah, joyeux anniversaire, Dustin. C'est pas, je pense qu'on va pouvoir, conclure là-dessus. C'est voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup. Rendez-vous, avec Patrick Béja, j'imagine, peut-être dans 15 jours. Moi, je serai pas loin, je serai dans le coin, a priori, hein. En attendant, passez un bon été si vous êtes en vacances. Reposez-vous bien. Et surtout, essayez de jouer un petit peu quand même aussi, parce que c'est pas parce qu'il fait beau qu'il ne faut pas rester enfermé chez vous à jouer. Voilà. On vous fait des bisous et à très bientôt.
Au revoir.
Salut.